18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Vous le savez, c'est chaque soir, c'est ici que ça se passe, les amis. Et nulle part ailleurs, 18h, 19h30, vous le savez, eh bien, nous commentons, nous analysons, nous décryptons l'actualité, y compris avec vous au 01 53 48 3000. Vous le savez, comme chaque soir, vous êtes très très nombreux à exploser le standard, mais aussi très très nombreux à nous suivre partout en France. Et bien, bienvenue. Alors, au sommaire de cette émission, tout d'abord, j'accueillerai Bruno Pomard, celui que je ne présente même plus. Évidemment, chroniqueur chez Les Grandes Gueules, mais aussi intervenant chez nous régulièrement. Ici même, il est le père fondateur, vous savez quoi, de la fondation Raid Aventure. C'est un ancien du Raid, c'est normal. Et bien, on viendra avec, parler avec lui, et bien, tout simplement, de l'obligation de quitter le territoire français. C'est ce qu'on appelle l'OQTF. Parce que figurez-vous que l'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord a suscité beaucoup d'interrogations. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne pour venir échanger avec Bruno Pomard, vous auditeurs, oui, sur les immigrés, sur les sans-papiers, sur tout ce qui concerne de près ou de loin la police. Eh bien, vous venez, vous l'interpellez, comme vous le faites si bien, au 01 53 48 3000, il répondra à vos questions, lui, ancien membre du RAID. Ensuite, chers amis auditeurs, eh bien, Pascal Boniface viendra nous livrer son billet d'humeur à 18h30. Il nous parlera d'un événement. Vous le savez, ça se passe tout à l'heure dans le Quad 9. Et puis, Bruno Pomard, on le garde. Emmanuel Dupuis, autre, évidemment, débatteur, qui intervient régulièrement sur l'international et la guerre en Ukraine, sera avec nous, mais également aussi Jimmy Dalidou, le représentant CGT, parce que figurez-vous, pour le 19 janvier prochain, l'annonce, la mobilisation s'annonce massive, et puis on en parlera avec les trois débatteurs, ici même, vous savez quoi, eh bien, de cette réforme des retraites, mais également le Gret qui dit j'ai fait le con, n'est-ce pas un peu trop tard, et puis aussi, la France ne devrait pas exister. Ça, c'est les Russes, la télé russe. Eh bien, on en parlera. Voilà le programme qui vous attend. Vous le savez. Et c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Eh, c'est du sport, hein, la radio. Hein. C'est le marathon. Bonsoir, Bruno Pomard, c'est parti pour l'interview du soir.
Les Informés. L'interview.
Je lance le jingle.
Ah oui, excusez-moi.
Je t'annonce, moi, je suis en éclat ici. Hein. Et Anthony, le réalisateur, il t'annonce. Ouais, on fait les choses bien. On a un réalisateur à quoi il sert.
Oui,
il réalise une émission.
Mais Guibos, il est jeune en plus.
Bruno Pomard, comment ça va? Il est jeune, ouais, il est
bonsoir,
bien.
Bonsoir, mon cher Adil. Très, très heureux d'être encore parmi vous, évidemment. Et puis, salutations à tous les auditeurs de Beurre FM parce qu'ils sont nombreux.
Ouais, exactement. C'est le marathon médiatique pour vous. Hein. Les Grandes Gueules, LCI, BFM, para. Le mec, il est partout. Comment vous faites?
Bah, si on peut transmettre un petit peu son ressenti sur tout un nombre de sujets. Alors j'essaie de me mobiliser sur les sujets qui nous concernent, je pense politique de la ville, jeunesse et puis sécurité, voilà.
Mais absolument.
Voilà, il y a de quoi dire, il faut le dire, et puis écouter ceux qui nous appellent aussi, c'est important.
Hein, exactement,
de laisser la parole aux auditeurs.
Ils peuvent appeler d'ores et déjà dès maintenant et vous interpeller. 01 53 48 3000, il est ancien membre du RAID, le fondateur de la fondation RAID Aventure, vous le savez, qui intervient dans les quartiers populaires, et aujourd'hui il est chroniqueur dans les différents médias, notamment chez Cyril Hanouna, mais également chez les Grandes Gueules. Attaque à l'arme blanche à la gare du Nord, vous savez, eh bien, ça soulève encore tout ce questionnement. Les difficultés à exécuter, vous savez quoi, ces mesures concernant l'OQTF. Pourquoi aujourd'hui une telle mesure administrative française, qui est normalement délivrée par la préfecture, aujourd'hui qui a pour objectif d'expulser une personne du territoire français, pourquoi aujourd'hui c'est compliqué? Pourquoi on a tant de mal? Pourquoi aujourd'hui ça revient, ça rejaillit sur le débat public, Bruno Pomard? Et les auditeurs, nous, on les attend au 01 53 48 3000, parce que là, pour le coup, je vais vous poser plusieurs questions. Et on fait l'amalgame entre les immigrés qui vivent tranquillement et ceux et l'OQTF. Du coup, on crée, on met tout dans le même panier, ça interroge.
Bah, c'est les petits esprits, comme on dit, hein. Malheureusement, effectivement, les OQTF n'ont rien à voir, évidemment, avec tous nos compatriotes. Il ne faut pas faire le mélange, ça c'est important.
Mais pourquoi dans la tête des Français,
nos amis,
c'est comme
ça. Ce qu'on calibre nos amis d'étrangers, entre guillemets, c'est pas bien de faire ça, et ce n'est pas bon pour notre société. Mais en même temps, il y a une vraie question qui se pose concernant ces individus, hein. Les obligations de quitter le territoire français, c'est 120 000 OQTF par an. De fait par la France, et une quinzaine de mille, soit entre 12 et 15% qui sont effectués. Donc, si on fait la soustraction tout bêtement, ça laisse beaucoup de monde dehors. Et comme les centres de rétention administratifs sont blindés, que fait-on? Alors, on a eu l'initiative du ministère de l'Intérieur, parce qu'on tape souvent sur le ministère de l'Intérieur ou sur la justice.
Vous les interpellez souvent, vous, le ministère
oui,
de l'Intérieur.
Oui, mais le ministère de l'Intérieur a fait ce qu'il a pu, parce qu'il s'est rendu dans plusieurs pays, Algérie, Maroc, Tunisie et autres, pour faire comprendre aux autorités locales, à leurs homologues ministères de l'Intérieur, de comment faire pour les renvoyer, pour que les pays les accueillent à nouveau, parce que ce sont des gens qui sont originaires vraiment de ces pays-là. Et là, c'est un vrai sujet. Donc, un sujet qui, en même temps, nous fait remonter certaines règles européennes, vous savez, les droits de l'homme, etc. Puisque oui. L'OQTF, lorsque quelqu'un est sous OQTF, vous savez qu'il y a 12 recours possibles. 12 recours possibles 12. Pour casser l'OQTF.
Pour casser l'OQTF.
Ouais, donc ça va pas. Les choses ne vont plus. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte que des individus, comme on a vu encore à la Gare du Nord hier, et comme on le voit trop souvent, bien à un moment donné, il va falloir soit trouver des centres de rétention pour les enfermer et puis qu'ils ne bougent plus jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Si on trouve pas une solution, ça ne fait que faire grandir le rassemblement.
Mon cher Bruno Pomard, j'aimerais juste qu'on dise, qu'on explique quand même l'OQTF, parce que il faut que nos éditeurs comprennent, qu'ils nous écoutent partout en France. Ceux qui sont concernés, c'est ceux, les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, on est d'accord?
Oui, alors c'est pour les, je dirais, ceux qui sont venus clandestinement, donc on les renvoie, et pour ceux qui ont créé un risque dans notre pays, ceux qui ont créé des délits et autres. Donc ils sont renvoyés par la justice française dans leur pays, donc c'est une décision aussi administrative, mais malheureusement, une fois qu'on leur a donné ça, on les retrouve dans la rue.
Notamment l'homme qui a blessé plusieurs personnes à l'arme blanche, justement ce mercredi à la Gare du Nord. On l'a confondu, évidemment. Il est libyen. Hein.
Oui, tout à fait.
On le sait.
Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, Adil, c'est que ces gens-là créent évidemment beaucoup de peur dans notre pays. Mais c'est surtout que ça nourrit le Rassemblement national. Mmh. Et oui. Donc, si on ne trouve pas une solution à tout ça, il ne faudra pas s'étonner si un jour on arrive à des élections.
Je dis les Libyens parce que c'est pas pour le qualifier, mais c'est parce que pendant longtemps, il y a eu cet amalgame, justement, cette confusion avec. Beaucoup se sont empressés pour dire, ah, voler, regardez ces immigrés.
Ben oui, parce que ces gens-là, pour certains, vont toujours dans les secteurs évidemment où il y a des trafics, dans les quartiers 18-19 et puis en banlieue parisienne. Donc évidemment, ils essaient de se planquer pour être le moins vu possible, je dirais. Mais en attendant, lorsqu'il arrive, comme ce qui est arrivé hier à la Gare du Nord, effectivement, on se pose la question quant à l'efficacité des mesures qui sont prises pourtant par le gouvernement, mais qui ne sont pas efficaces compte tenu du nombre de personnages qui sont sous ce mandat.
Alors, si j'ai bien compris, l'assaillant qui est sur le coup justement d'une obligation de quitter le territoire, vous en savez un peu plus, vous ?
Pas plus que ça, seulement que heureusement que les forces de police évidemment sont mobilisées très rapidement. Je pense à la DOPC, hein, à la direction j'ai oublié l'acronyme. Bref, les policiers qui sont sur Paris, qui assurent la sécurité, les compagnies d'intervention également, les compagnies de sécurisation d'intervention qui sont présentes beaucoup dans ce secteur de la Gare du Nord. Mais vous vous rendez compte que sur un cas comme ça, s'il n'y a pas une réaction rapide, ça peut effectivement être dramatique. C'est-à-dire,
vous faisiez référence, Bruno Pomard, justement à l'extrême droite, notamment le Rassemblement National. Ça m'a interpellé ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites que ça nourrit justement le Rassemblement National. C'est-à-dire, ça veut dire quoi précisément? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est confronté clairement à une montée de l'extrême? Vous le savez, je vous l'apprends pas. Ils sont présents au sein de l'hémicycle, qui sont 89. Ils sont présents évidemment dans les esprits. Aujourd'hui, est-ce que on est en train d'assister à une montée fulgurante des extrêmes?
Ah, mais moi j'y crois. Alors, des extrêmes, je crois plus d'ailleurs à la montée du Rassemblement National que de l'extrême gauche. Je pense à la France Insoumise qui a d'autres soucis à régler. Mais gentiment, je dirais, le Rassemblement National fait son chemin. On le voit. Et je partirai de l'Assemblée Nationale avec le comportement déjà du Rassemblement National qu'on n'entend pas par rapport à ce qu'on entend de l'autre côté avec LFI et la NUPES. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ils surfent sur des faits divers comme on voit et comme on a vu hier avec cette affaire de QTF. Donc ils n'ont pas grand-chose à faire. On remarquerait que Marine Le Pen, on n'entend pas beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait l'entendre à un certain moment. Jordan Bardella, qu'on voit en avant, effectivement, lui profite de l'occasion, mais encore une fois, méfions-nous. Donc il va falloir très sincèrement prendre des décisions capital pour qu'on puisse avancer sur tous ces sujets de sécurité.
Un sujet qui concerne nos auditeurs notamment, une partie de nos auditeurs, vous le savez, c'est notamment les situations régulières, notamment de reconduire les cartes de séjour, etc. Vous savez qu'ils sont nombreux, les immigrés, justement, à être heurtés à un énorme retard de reconduction de cartes de séjour, etc. Est-ce que c'est lié notamment, vous savez, à tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le Covid, eh bien, l'administration est dépassée par les dossiers. Que se passe-t-il réellement? Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs, évidemment, aujourd'hui, les raisons pour lesquelles ça prend autant de temps, les raisons pour lesquelles ça tarde, les raisons pour lesquelles, eh bien, la situation devient de plus en plus compliquée? Du coup, ça installe une paranoïa chez certains.
Écoutez, ça ne vous a pas échappé quand même qu'il y a eu des vagues d'immigration autorisés, mais surtout clandestines, qui sont arrivées sur l'Europe et sur la France en particulier. Donc ça, ben, ça nous apporte des problèmes supplémentaires. Il ne faut pas se cacher la face. Ça, c'est une première chose. Et que ensuite, évidemment, on est dans une société où la violence était totalement exacerbée. Et que ces individus-là, qui sont en nombre conséquent, les mineurs isolés, par exemple, c'est une vraie problématique pour le gouvernement et pour les autorités. Ces individus-là qui sont repérés, fichés, etc., qu'on n'arrive pas à traiter, puisque je vous donnais les chiffres tout à l'heure, on a 2000 places en rétention, en centre de rétention administratif, les CRA, et on se rend compte qu'on a 2000, oui, 2000, ouais. 2000. Et ils sont blindés.
C'est donc blindé, ça.
Et on a 120 000 OQTF qui sont donnés.
120 000
par la... 120 000, c'est catastrophique.
Ouais. Ouais, ah bah, et oui. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Oui.
Donc, bon, vous avez toute cette immigration qu'on connaît, Syrie, qui est arrivée de l'Est, etc., et du Maghreb, qu'on n'arrive plus à indiquer. Donc, ça, c'est un véritable problème.
La réponse, et quelle est la tendance dans les mois à venir, dans les années à venir?
Ben, il faut espérer que le gouvernement arrive, et je sais que Darmanin, là-dessus, travaille assidûment avec les autorités, les affaires étrangères et autres, pour qu'on puisse trouver des accords avec les pays dont sont ressortissants ces individus. C'est essentiel. Je pense que c'est la base même. Encore une fois, si on doit...
Selon certains experts, il va y avoir une grosse vague d'immigration qui va arriver du continent africain.
Mais oui. Et ça c'est irréversible. Donc, il va falloir trouver des solutions avec d'autres pays pour pouvoir accueillir nos compatriotes. Et ce qu'il y a de contradictoire dans tout ça, c'est qu'on a du mal à autoriser nos compatriotes, parce qu'il y a des gens sans papier, mais qui travaillent, qui font les boulots que nous ne voulons pas faire. Les boulots difficiles.
Et ils sont nombreux.
Ben oui, et ces gens-là, il faut les repérer. Ils sont repérés. Je pense à la restauration, entre autres, parce qu'il y en a aussi beaucoup là-dedans. Les repérer à travers les patrons qui les emploient, etc. Parce que c'est un gage de sécurité, je dirais. Des gens qui viennent là, même s'ils sont sans papier, et qui viennent là pour vivre, on peut le comprendre. Et les régulariser, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, vous en avez toute une ribambelle, ben, écoutez, le pays peut pas accueillir tous ces gens-là. C'est pas possible. C'est d'abord la sécurité de notre pays et de tous nos compatriotes. Et on évite, ce que je vous disais tout à l'heure encore, cette montée systématique du racisme. Ah, et oui, c'est encore des étrangers. C'est pas possible. Donc, moi, je veux préserver nos compatriotes, qu'ils soient français d'origine. Après, on peut discuter pendant des heures sur ces sujets-là, mais et c'est important, je dis, parce qu'encore, on fait souvent, trop souvent l'amalgame.
Trop souvent l'amalgame, justement, si vous souhaitez poser des questions, interpeller Bruno Pomard, ancien membre du RAID, justement, sur les questions quelconques, hein, concernant, évidemment, le rapport avec la police, mais aussi, vous savez, tous celles et ceux qui se retrouvent dans des situations irrégulières, on peut en parler, s'il est là et s'il peut vous apporter, évidemment, quelques éclairages, quelques conseils, eh bien, ce serait donc avec plaisir ici aux informés 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Les informés vous donnent la parole, je vous attends. Anthony vous attend au standard 01 53 48 3000. Et venez justement parler de tout cela ici même, de la lourdeur administrative, notamment quand il faut reconduire ou renouveler sa carte de séjour. Comment vous vivez tout cela? Est-ce que c'est compliqué? C'est de plus en plus compliqué. Pire qu'avant, bien pire qu'avant. Est-ce que vous avez aujourd'hui, justement, venez en parler avec nous au 01 53 48 3000. Je voudrais vraiment qu'il faut qu'on en parle ce soir. Très librement au 01 53 48 3000 avec Bruno Pomard. Je veux qu'on prenne le temps d'échanger avec vous. C'est très très important, chers amis, parce que j'aimerais avoir votre retour et il est très important d'avoir ce retour-là parce que je sais que tous celles et ceux qui nous écoutent, nombreux sont heurtés à cette difficulté. Et je veux justement qu'on échange sur ce sujet-là. Il est primordial et essentiel. Alors justement, 01 53 48 3000. Je veux vous entendre. Une petite question avant de retrouver nos auditeurs. Pourquoi restent-ils en France les personnes qui sont heurtées à l'OQTF? Pour quelle raison, mon cher Bruno Pomard, par exemple, ils restent en France? On le sait.
Oui, mais parce que le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les mettre dans les centres de rétention administrative qui sont blindés. Donc, automatiquement, ben, ces gens qui sont venus pour certains sans-papiers et à qui on dit, ben, il faut que vous repartiez dans votre pays parce qu'on peut pas vous accueillir, ben, ils restent dans la rue. Effectivement, ils sont contrôlables par l'administration. Mais comment voulez-vous que les policiers, toute la journée, passent du temps à contrôler tous ces gens-là? C'est pas possible.
Allez, direction le standard, 01 53 48 3000. Et vous êtes nombreux, comme chaque soir, et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Anan, vous nous appelez de Créteil. Bonsoir, Anan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Mais très bien, vous savez. Bonne année, bonne santé. Merci. Bon, et à mon tour, je vous souhaite aussi une bonne année et une bonne santé. Merci. Et sachez en plus, vous savez, c'est Yanaïr aussi, hein, la bonne année, justement, vrai. Des Alors, Berbères. Donc, bonne année à tous les Berbères, berbérophones.
Exactement. Je ne sais pas si on prononce correctement, je crois que c'est.
Amegas. Voilà. Yanaïr. Tout simplement. Yanaïr, exactement. Voilà. Anan, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Écoutez, je suis gestionnaire facturation.
Vous savez quoi? On marque une pause pub et on se retrouve. Je vous récupère tout de suite après. Ça vous va?
Oui, parfait.
Ne bougez pas. Et Bruno Pomard vous écoute, vous voulez le saluer?
Pardon?
Bruno est avec nous. Vous le saluez
oui,
rapidement.
J'allais dire bonjour à monsieur Bruno.
Et bonjour, puis, bonjour madame.
Anan.
On a viré direct sur Yenayer, donc.
D'accord, ben bah écoutez, on va pouvoir discuter, avec grand plaisir.
Très bien.
À tout de suite, ne bougez pas, restez avec moi. 06 01 53 48 3000, j'allais donner mon numéro de portable. Elle est pas mal celle-là.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h23, merci de nous suivre. C'est Les Informés jusqu'à 19h30, chers amis, et les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Et je récupère Anan de Créteil. Bonsoir Anan, rebonsoir Anan.
Bonsoir Anan.
Oui, rebonsoir.
Bruno Pomard vous écoute, allons-y.
Oui, bah écoutez, pour réagir un petit peu à ce qui se passe en ce moment, surtout en ce moment, je dirais, ça devient banal à chaque fois qu'il y ait un immigré ou une personne sans papier ou une personne en fait qui agit comme a agi un petit homme hier.
Oui.
C'est que voilà, on stigmatise alors, précisément, on va stigmatiser les maghrébins, voilà comment ils sont, voilà ce qu'ils ont fait. Et ça devient un petit peu lassant en fait. C'est limite en fait redondant et j'aimerais bien que toute personne qui écoute en fait ces messages en fait limite en fait s'intime devant ça. C'est pas parce que je veux dire on est différent des autres qu'on est obligé d'être comme cette personne là ou comme les autres. Ça devient indignant en fait. Vraiment ça devient indigne.
Vous entendez le cri d'alarme de Danan, Bruno Pomard.
J'entends bien, je le disais avant qu'on lance l'antenne, effectivement c'est ça, c'est faire l'amalgame. Bon, alors c'est les petits esprits qui font ça malheureusement hein, vous savez, on changera pas la nature humaine. Mais vous avez bien raison que, encore une fois, il ne faut pas confondre ces gens-là qui n'ont rien à voir.
Oui, mais Anan vous dit que c'est une réalité.
Oui, c'est
une réalité. Mais confondre ou pas, c'est, le problème, c'est qu'elle le vit. Elle.
En fait, le problème, c'est que c'est les médias. Ils surfent en fait sur une vague, sur cette vague. Et ça vient malheureusement nourrir en fait tout ce qui est extrême, à savoir l'extrême droite. Et ça les nourrit. Mais franchement, ils sont en train de s'en laver les mains. Voilà ce qu'ils nous font à notre beau pays. Voilà ce qu'ils font à notre France. Voilà. Ce genre de discours, ça vient en fait. Ça devient lassant parce qu'aujourd'hui, la grand-mère qui se trouve, le grand-père qui se trouve au fin fond de la France, dans un coin rural, il y a 500 habitants, il se dit bah, en fait, c'est vrai, là, regardez cet arabe, il agit de la sorte. Et c'est inadmissible.
Vous avez raison.
C'est vrai.
Le nombre de QTF qui sont soit à Paris et soit dans les grandes villes de la couronne de Paris, évidemment, se fondent dans ces quartiers, etc. Et après, on fait automatiquement l'amalgame. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Mais ça nourrit encore une fois cette montée d'extrême droite qui est dramatique pour notre pays.
Exactement ça. C'est dramatique.
Merci Anan. 01 53 48. Tiens, on va le prendre justement en direct. Qui est donc avec nous? Non, on me dit que c'est pas le bon. 01 53 48 3000, on vous attend. Venez commenter, posez vos questions. 01 53 48 3000, justement, comme Anan, j'ai envie de vous poser la question, Bruno Pomard, justement, ceux qui se retrouvent en situation irrégulière, vous savez, beaucoup se sont plaints, notamment sur notre antenne, en disant que ils étaient inquiets, justement, sur l'avenir de la reconduction des cartes de séjour. Est-ce qu'on doit faire la part des choses? Il y a ceux, évidemment, qui font l'objet d'une reconduction et ceux qui
travaille l'objet,
voilà, absolument.
Oui, vous avez nombre de gens.
Apportons un éclairage là-dessus pour qu'on soit au moins clair sur cet esprit.
Déjà, la France est un pays d'accueil, ça vous a pas échappé, hein, je pense, et je crois que tout est fait quand on voit le nombre de possibilités qu'il y a d'être français, de devenir français ou d'avoir de carte de séjour temporaire ou de résident carrément, et c'est considérable. Donc, mais je pense que les pouvoirs publics et les administrations, puisque ça relève des sous-préfectures et des préfectures, doivent être très vigilantes quant à l'accord qu'on donne à certains compatriotes, ou pas d'ailleurs, de pouvoir résider dans notre pays. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de gens actuellement qui travaillent sans papier dans nombre de restaurations, de restaurants et d'autres, je pense aux travaux publics entre autres, etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question. Le problème, c'est comment réguler, comment prendre tout ça en charge de façon objective pour éviter qu'il y ait des dérapages. Ça, c'est un vrai souci.
J'ai une question d'un auditeur justement que je vois. Alors il y en a un justement qui dit que j'attends une reconduction. Ça fait maintenant de plus de 6 mois qu'il attend une reconduction de sa carte de séjour. Or, il est heurté à une chose très simple, c'est-à-dire qu'on le renvoie systématiquement sur un lien d'un site. Il est sans nouvelles.
Ah oui, ben oui, oui, ben ça c'est le
il veut rester anonyme, je ne peux pas donner son nom.
C'est un peu comme les numéros verts, vous savez, ça, dès qu'on a un problème, on crée un numéro vert pour pouvoir répondre aux gens.
Alors qu'est-ce que vous dites à cet auditeur qui souhaite rester dans l'anonymat?
Ben, il faut qu'il demande carrément qu'il aille directement à la préfecture.
Mais il est parti à la préfecture.
Il est à la préfecture l'a renvoyé sur le site.
Voilà.
Ouais, ben bon. C'est un peu le souci de notre pays où vous savez, il n'y a pas longtemps, on parlait des numéros verts. Hein. C'est Macron qui en a parlé d'ailleurs. Hein, oui. Qui disait, c'est sympa, j'ai appelé un numéro vert pour avoir un renseignement. Ça n'a jamais répondu. Ben, c'est un peu la réponse que je peux lui faire. Je dis ça en souriant, mais c'est pas du tout marrant.
Qu'est-ce que vous le conseillez à cet auditeur? Bruno Pommard.
De ne pas lâcher le morceau.
Ça fait 6 mois. Attendez. Alors, je me reconnais. Ça fait quand même plus de 6 mois.
Je sais, alors ça prend quand même du temps, hein. C'est un renouvellement de carte de séjour, ça prend du temps compte tenu du nombre de demandes qu'il y a et des enquêtes qui sont faites évidemment pour pouvoir prolonger une carte de séjour. Donc patience encore une fois et puis ne pas hésiter encore une fois à aller en préfecture se plaindre et dire voilà, ça fait tant de temps que j'attends, maintenant j'aimerais avoir une réponse. Mais je pense que
certain que cet auditeur soit satisfait.
Ben, je sais bien, non mais c'est compliqué
de
répondre le plus objectivement possible, mais vrai, c'est les administrations qui sont saturé pour répondre à toutes ces demandes.
Avant d'accueillir Samira du 411. Bonsoir Samira. Je vais en rendre
minute.
Samira. Samira, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samira?
Je suis dans l'immobilier.
Dans l'immobilier.
En formation d'agent immobilier.
Dans le 91, où précisément dans le 91?
À Palaiseau.
On vous écoute. Bruno Pommard vous écoute.
Bonsoir Bruno, bonne année à tout le monde.
Bonsoir.
Je t'appelle vite pour vous dire pour les titres de séjour, parce que c'est pas évident. Moi j'avais une carte de séjour de 4 ans.
Oui.
J'ai effectué une demande de renouvellement. Là je suis à plus de 18 mois, plus que 7 récépissés.
Oui.
À chaque fois je vais à la préfecture pour demander pourquoi ça prend tout ce temps-là, pourquoi pour prendre un avocat ou quoi que ce soit. Oui. Parce que ça met des blocages quand même au niveau professionnel et au niveau personnel.
Et ben
donc on ne sait pas. Il n'y a pas de souci.
Ben c'est comme l'auditeur là qui vient de m'écrire. Là. L'auditeur il a dit
votre employeur est intervenu pour vous auprès de la préfecture, madame?
Parce que c'est pour...
Excellente question de Bruno Pommard. Il a raison, l'employeur doit intervenir.
Ben oui.
C'est vrai.
Montrez que vous êtes quelqu'un d'inséré, posé, vous habitez depuis longtemps. Vous êtes en France depuis longtemps, madame?
C'est Samira.
Samira.
Oui, mais moi j'ai effectué ma demande par rapport aux parents d'enfants français, donc c'est pas mon employeur qui m'a régularisé la situation. Mais par contre, pour les examens et tout, là, je trouve, par exemple, là, mon récépissé a expiré le 21 décembre.
Oui.
Actuellement, je ne peux pas aller au centre de formation.
Tout eh oui, vous êtes bloqué.
Par rapport
à
l'assurance.
Il est bloqué.
Donc, c'est normal, le centre dit non. Il n'y a pas de titre, vous ne voulez pas. Et la préfecture me dit...
Qu'est-ce que vous le conseillez, Bruno Pommard?
Le centre de formation ne peut pas intervenir, madame Samira?
Ben, effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est l'assistance sociale du centre qui m'a aidé à avoir le rendez-vous le 16 pour renouveler le récépissé. Comme ça, au moins, je peux continuer ma formation.
Eh voilà, vous avez enclenché le process. S'il y a quelqu'un qui s'occupe effectivement de cette formation de votre cas, c'est la seule chose qu'il y a à faire pour le moment, quoi. Et ne pas lâcher le morceau, comme on dit, parce que
donc,
les administrations ont tellement de choses à faire que ça pourrait passer la trappe.
Je trouve que c'est dommage. Ils disent que les démarches sont simplifiées, mais en vrai, c'est pas simplifié. Pour ceux qui sont en règle, qui sont sérieux, qui veulent s'intégrer, qui veulent avancer,
j'entends
évoluer,
bien.
Franchement, c'est compliqué.
Samira, ne lâchez rien, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit retournez voir le centre et l'assistante sociale, effectivement, qui pourra suivre votre dossier. Merci Samira, le Quoi de Neuf, c'est parti, c'est tout de suite.
Les informés, le Quoi de Neuf.
C'est avec Pascal Boniface, le patron fondateur de l'Institut Liris. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Comment allez-vous mon cher Pascal?
Très bien, comme tous les jeudis soirs.
Comme tous les jeudis soirs. Et comme tous les jeudis soirs, vous savez quoi? Vous nous livrez votre regard, votre billet d'humeur. Et vous avez décidé de consacrer tout simplement votre regard autour d'un événement de Brasilia. On vous écoute.
Oui, voilà, il s'est passé il y a quelques jours un événement assez spectaculaire. C'était une sorte de... pas de coup d'État, parce que ce sont les militaires qui font les coups d'État, là, c'était les civils. C'est pas non plus une insurrection, parce qu'une insurrection, c'est fait pour renverser une dictature. Là, on voulait empêcher un président élu d'exercer le pouvoir. Mais disons que une sorte de coup d'État civil ou de vaste manifestation, des milliers de Brésiliens, partisans de Bolsonaro, ont envahi les institutions du pouvoir au Brésil, mais qui étaient vides. Il n'y avait personne dedans, le président n'était pas là. Il n'y avait pas les juges, il n'y avait pas les députés, mais ils ont quand même voulu les envahir pour dire que non, c'est Bolsonaro qui avait gagné les élections et pas du tout Lula, et que Lula n'avait pas le droit d'être président, que ce n'est pas le vrai président. Bien sûr, ceci faisait écho à ce qui s'est passé il y a juste 2 ans à Washington, quand des émeutiers, parce que ce sont des émeutiers, avaient tenté d'envahir le Capitole, le lieu où se réunit le Congrès américain. Là aussi, alors là, c'était pas après l'investiture du président élu comme au Brésil, c'était avant, pour empêcher Biden de venir au pouvoir. Et Bolsonaro était un peu le Trump des tropiques. Dans les deux cas, on voit que deux grandes démocraties ont connu des violences pour empêcher cela. Mais le changement, c'est que, justement, les militaires sont restés du côté du président élu. Il n'y a plus de coup d'État militaire en Amérique latine. C'en est fini de cette période. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le soutien américain, que même au contraire, Biden a invité Lula à venir au Washington, et qu'il y a quand même assez peu d'événements qui réunissent l'ensemble des dirigeants du monde. Et là, de Biden à Poutine, tout le monde a donné son soutien à Lula. Et donc c'est un événement vraiment assez extraordinaire. Cette tentative d'insurrection a échoué. On ne peut que s'en féliciter. Lula, au contraire, a été conforté parce qu'il fait face à un congrès qui ne lui est pas favorable, mais les plus extrémistes des bolsonaristes ont été décrédibilisés par cette insurrection en tongue, avec la différence aussi entre Washington et Brasilia, c'est que là, les émeutiers n'étaient pas armés. Et puis, il faudra voir à l'avenir quel rôle le Brésil va jouer. On se rappelle, il y a quelques années, que le Brésil et la Turquie avaient ensemble proposé une médiation par rapport au problème du nucléaire iranien, que les grandes puissances avaient rejeté en disant « ne vous mêlez pas de cela, c'est nous que ça regarde ». Là, peut-être que le Brésil, avec d'autres pays, pourrait reprendre son bâton de pèlerin pour une médiation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Eh bien, mille merci pour cet éclairage, évidemment, livré comme chaque jeudi. Merci, mon cher Pascal Boniface. Je vous souhaite, évidemment, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve là sans faute, avec autant de plaisir, la semaine prochaine.
Avec plaisir, Abil.
Partagez. Merci, Pascal Boniface, le patron, donc directeur de l'Institut Liris. 0153 48 3000, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Continuez à nous appeler, à nous interpeller. Au standard, Anthony vous attend, 0153 48 3000. Bruno Pomard, ancien membre du RAID, mais le père fondateur justement de la fondation RAID Aventure, vous attend. Il est chroniqueur aussi télé. Dans une poignée de minutes, eh bien juste après, nous allons présenter nos débatteurs, influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h41, c'est parti, le face-à-face, les amis.
Et les informés, le face-à-face.
Avec Jimmy Dalidou, représentant CGT, mais également auteur. Bonsoir Jimmy Dalidou.
Bonsoir à tous.
C'est parti pour le show, vous savez quoi, on va parler de la réforme des retraites, et ça chauffe dans tous les sens. On garde Bruno Pomard, bonsoir.
Ben bonsoir mon cher Adil, et puis ce soir on va avoir affaire au syndicalisme pur et dur.
Eh ben écoute, et justement...
Préparez les gars, préparez le...
Eh ben justement, et ben on va en parler ce soir. Bruno Pomard, ancien membre du RAID, mais également chroniqueur télé, mais aussi le père fondateur de Aventure, la fondation RAID Aventure. Un spécialiste, un expert justement de l'aventure l'international. On ne voit que lui. À chaque fois j'allume la télé, je vois sa tête, il s'appelle Emmanuel Dupuis. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. L'omniprésence, t'as signé un contrat Vous avez signé un contrat avec les chiens ou quoi?
Non, j'ai signé un contrat avec les téléspectateurs et les auditeurs.
Tu t'es rapproché
en
le micro.
Espérant être le plus didactique, le plus.
On vous voit que vous là sur l'internet, sur le. Sur comment ça s'appelle, sur l'Ukraine. Hein.
Pas que sur l'Ukraine, sur les questions internationales.
Ouais.
Bon, l'actualité internationale est focalisée sur l'Ukraine.
L'IPSE.
Mais en même temps,
l'Institut
de prospective et sécurité en Europe. Mais il y a aussi d'autres chercheurs de l'IPSE dont je me réjouis qu'il participe aussi à ce plateau. Ben je pense notamment à mon collègue Jean-Christophe Chicaïa et aussi Pierre-Henri, qui est chercheur associé à l'IPSE.
Qui intervient ici régulièrement.
Absolument.
Messieurs, tout de suite, nous allons parler de cette réforme de retraite. Vous savez quoi, les syndicats qui appellent tout simplement à une grosse mobilisation massive. Sauf que nous, on en appelle aussi, vous savez quoi? Eh bien, la première ministre, elle appelle à la responsabilité de chacun. Notamment, je pense, à la CGT Pétrole qui, elle, agite la menace d'un arrêt du raffinage. Que se passe-t-il, chers amis? Tiens, le représentant CGT, Jimmy Dalidou.
Oui, alors...
c'est chaud, là, ce qui se passe. Hein.
C'est très, très chaud. Je pense que là, la colère, et la colère, je veux pas dire que la colère va arriver parce qu'elle est déjà présente, mais on sent qu'il y
vous
a
voulez bloquer
une,
le pays,
une aggravation de la colère.
Comme en 95.
Il y a une aggravation de la colère. On sent que dans les discussions sur le terrain, ce qui ressort, c'est que les travailleurs en ont... moi, j'étais au boulot toute la semaine, par exemple, j'en ai parlé toute la semaine. Tout le monde en a marre, en fait. Et là, ce qui est assez particulier par rapport aux autres luttes passées, c'est que la colère touche tout le monde. l'exécution comme l'encadrement.
Ah,
d'ailleurs, c'est que c'est les deux qui sont en colère. Mmh. Avant, vous aviez des luttes, par exemple lors de la
c'est
loi travail ou avant.
Ce qui se passait, c'est vrai.
Vous aviez une exécution qui était en colère, mais avec un encadrement qui tergiversait. Alors même si certains membres de l'encadrement sont pas forcément, voilà, chez nous par exemple, on sait que l'UNSA est assez puissant dans l'encadrement, etc. Mais là, on sent que ça touche tous les grades. Donc la colère, elle est en train de toucher tous les travailleurs. Le peuple travailleur, d'une manière générale, est touché, qu'il soit à l'exécution ou à l'encadrement. Et là, je sais qu'à la CGT Cheminot, on a d'ores et déjà posé un préavis de grève, qui sera évidemment reconduit. Il y a une déclaration préliminaire qui a été faite de toutes les organisations syndicales.
Non, mais là, on vous entend partout. Vous avez bloqué le pays, j'ai pas compris.
Alors, deux choses importantes. Première chose, c'est pas les syndicats qui décident de bloquer le pays. C'est d'abord la
solution. C'est ce que vous cherchez.
Entre nous, c'est un peu dommage.
C'est ce que vous voulez chercher à faire.
Deux choses.
Non, mais ce que je dis, les syndicats sont complètement dépassés.
Mais je veux qu'on en parle ce soir, vraiment. Il faut que ça fasse débat ce soir. Il faut que ça fasse débat,
cher. Ce sont nos compatriotes qui vont sur le terrain et les syndicats, on sent qu'ils sont totalement dépassés. Excusez-moi.
Non, pas du tout, Bruno. Deux choses. On a un gouvernement qui prend des directives, qui valide une orientation politique qui est un désastre, qui va engendrer un désastre social, qui applique une politique nauséabonde et qui vise toujours les mêmes personnes. Hein, le peuple travailleur, la majorité des Français sont issus de la classe ouvrière, des couches populaires.
Mais qu'en fait les syndicats ?
La classe moyenne qui est totalement socialement détruit, pour pas dire déclassé. Et les syndicats, ils sont pas dépassés, mais les syndicats. Alors, deux choses importantes.
Mais c'est quoi qui s'installe ? Je veux comprendre une chose, parce que on veut parler de grève sociale. Non, vous allez répondre. On parle de colère, on parle de révolte, on parle de tout ça là. Vous savez quoi ? On a l'impression que là, tous les syndicats, tout confondus, veulent bloquer le pays, prendre en otage les Français. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, je sollicite nos auditeurs s'ils peuvent intervenir là au 01 53 48 3000. Je fais un tour de table, Jimmy Delisu, si vous permettez. Ouais. Bruno Pomar et ensuite Emmanuel Dupuis.
Non, moi, je resterai sur la position. C'est qu'ont fait les syndicats les 10 dernières années pour en arriver à ce stade ? Parce qu'en même temps, c'est eux qui sont censés défendre les ouvriers, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Quand on a vu la dernière manifestation qui s'annonçait énorme, d'après ce que disait M. Mélenchon et tous ses ouailles, on s'est rendu compte que ça a été un fiasco total. Donc, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation générale là, dans les prochains jours ? J'attends de voir. Mais encore une fois, je me demande ce que foutent les syndicats, parce que ce sont les employés qui manifestent maintenant. Et les syndicats derrière ont essayé de récupérer le morceau. Mmh. Alors, je sais pas ce qu'en pense notre spécialiste international, mais moi, ça me surprend tout ça.
Ça vous surprend tout ça. Mais je voudrais qu'on en parle, parce que moi, je veux même que vous échangez là-dessus, parce que vous savez quoi, il y a un enjeu qui nous attend, Emmanuel Dupuis.
Alors, rappelez quand même une réalité que je n'ai pas entendue à travers les propos de Jimmy. C'est pas l'apanage des syndicats, ce qui est en train de se passer. C'est l'avenir de tous les Français. Et c'est l'avenir de notre système de retraite par répartition.
Sauf que les syndicats veulent bloquer la France.
Mais c'est justement ça le problème.
Voilà.
C'est pas à eux de se positionner. C'est une prise en otage sectorielle, caractérielle, catégorielle, pardon, caractérielle sans doute aussi. Encore une fois, que les Français ne soient pas d'accord. Et qu'il y ait une partie des Français qui ne soient pas d'accord sur la manière dont la retraite.
Ou qu'ils soient révoltés.
Moi aussi, je suis révolté contre cette réforme. Par contre, je ne me reconnais pas dans la réponse qu'en font les syndicats. Et je n'accepte pas que cette réponse.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ?
Alors, on s'oppose à la réforme. Alors, on peut s'opposer à la réforme de différentes manières. Premièrement, soutenir les parlementaires qui ne vont pas voter la réforme et qui vont faire de l'obstruction systématique. C'est leur droit le plus absolu. C'est la raison pour laquelle le Parlement est fait. Premier élément. Deuxième élément, s'offusquer du fait que la méthode de la concertation n'ait pas été tout à fait mise en place. La Première ministre a beau aller sur les plateaux en disant que toutes les parties ont été entendues, les syndicats de travailleurs, les syndicats de l'encadrement, les syndicats de patrons, ce n'est pas vrai. Et cette réforme se veut accélérée pour des raisons politiciennes. Accessoirement, cette réforme doit être l'objet d'une lente maturation, et c'est la méthode qui pose problème. Qu'il faille réduire le nombre d'annuités, qu'il faille respecter et mettre en avant la pénibilité d'un certain nombre d'emplois,
c'est évident.
Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est la méthode qui pose problème, et c'est le caractère très politicien de cette méthode, car in fine...
Vous l'entendez ça, Jimmy Dalidou ?
Oui,
ce gouvernement veut aller vite, et donc, d'une certaine façon... à sa part de responsabilité dans la mise en otage. Je le dis, je l'affirme devant notre ami syndicaliste, les syndicats parlent sans doute de manière trop exubérante au nom des Français.
Exubérante ? Oui, peser les mots.
Forcément, oui. On parle de révolte.
On parle de révolte, oui, on parle de révolte.
On parle de blocage de pays.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
De 24 heures de grève, puis 48 heures, puis 72 heures.
Bah, la RATP fait grève demain. On vous l'annonce.
C'est des milliards de pertes pour l'économie française.
C'est du milliard de pertes et surtout une milliard de tracasseries et une milliard d'ennuis pour les Français qui sont supposés devoir, selon leur point de vue, représenter. Mais c'est aussi, et là j'abonde dans le sens de Jimmy, une prise en otage du gouvernement. Franchement. Alors que cette réforme était l'objet d'une concertation depuis des années, le gouvernement veut aller en quelques heures. C'est, encore une fois, une logique politicienne qui est tout aussi critiquable que la prise en otage.
Prendre le temps de débattre.
Pardon ?
Prendre le temps de débattre.
Ben, ça fait des années qu'on le dit.
Mais Emmanuel, il y a quand même eu pas mal de concertations, quoi qu'on dise. J'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté, évidemment, des syndicats et de bon nombre de compatriotes qui ne veulent pas de cette retraite. De toute manière, la réforme est obligatoire. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie et de la retraite, mais on se rend compte qu'à un moment donné, il faut rebousser tout ça, c'est-à-dire aider nos compatriotes qui ont les métiers les plus difficiles à pouvoir s'en sortir et être mieux payés. Je crois qu'ils veulent mettre la retraite minimale à 1 200 euros. 1 200 et je crois que même à la droite, l'équipe Ciotti et compagnie sont prêts à voter ça.
1200 euros pour ceux qui ont eu un emploi proche du SMIC.
Tout à fait. Et ça, c'est une avancée pour que le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que la droite, à mon avis, va voter peut-être à quelques exceptions près, mais...
Mais c'est pas le problème que la droite vote. De toute façon, la droite a toujours voulu
pour éviter le 49-7.
Une réforme du système de retraite par répartition. Oui. La question qui est posée, c'est le fait que le gouvernement veut sa réforme, selon ses dires, qui, accessoirement, ne correspond pas tout à fait à la manière dont ce sujet est traité dans d'autres pays européens. Ce qui pose un autre problème.
Justement, attendez, Jimmy Dalidou, s'il vous plaît, je vous donne la parole, promis, mais je voudrais quand même entendre les auditeurs au 01 53 48 3000. Mohamed, vous nous appelez de Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed ? Bonsoir.
Bonsoir à tous, déjà pour commencer. Et voilà, moi je travaille à la RATP.
Ah, allons-y, vous faites grève demain, hein, c'est annoncé.
Et c'est ça.
Oui, dites-nous tout. Pour quelle raison vous faites grève demain ?
Pour le ras-le-bol général.
Donc c'est la révolte, là c'est le ras-le-bol général. Alors on vous écoute échanger avec nos invités, justement sur le plateau Les Débatteurs.
Donc moi justement, je voulais revenir sur un point qui a été soulevé. C'est que on parle souvent des syndicats, mais les deux dernières grèves qu'on a fait sur ma ligne de tramway, elles ont été faites sans les syndicats. Ça a été des grèves sauvages. Les syndicats ont essayé de reprendre la main, mais n'ont pas réussi. Et justement, c'est ce qui a fait peur aux responsables, car ils n'avaient pas d'interlocuteur réel. Les syndicats, on les a lourdés, on voulait plus qu'ils nous représentent, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est que des coups d'épée dans l'eau et qu'on n'avance pas. Et on a réussi à faire avancer les choses en faisant des grèves un peu qu'on a organisé nous-mêmes, et on s'en est bien sorti. Donc les syndicats essaient de reprendre la main un peu partout, mais je pense que les gens en ont marre, ils veulent même plus être représentés par qui que ce soit, en fait.
C'est ce que disait Emmanuel Dupuis.
Ils veulent plus être représentés, on en a marre d'être représentés par des gens, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font pas passer le message qu'on a envie de faire passer.
Les syndicats, et donc ce que je disais, il y a une vraie responsabilité syndicat quand même à la base.
Jimmy Dalidou, vous voulez parler à votre collègue ?
Ouais, deux choses, c'est un des éléments que je voulais revenir. Ouais, d'ailleurs, salutations aux collègues. Sur les différents collectifs qui se forment dernièrement, faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, concernant les méthodes de lutte, effectivement, les nouvelles méthodes de lutte sont à trouver. Et encore une fois, c'est une approche collective qui doit se faire entre les principaux intéressés, c'est-à-dire les usagers et les travailleurs du service qui est proposé. Je pense que c'est une approche collective. Lorsqu'on a plusieurs fois appelé à venir, les usagers à venir dans les assemblées générales, à créer des comités de travailleurs, des comités populaires travailleurs dans lesquels on pourrait débattre et discuter, franchement, entre nous, au lieu de, voilà, il faut faire un choix. Soit on reste sur le canapé à regarder Netflix, soit on les agit, on en discute, on trouve des nouvelles méthodes de lutte. Maintenant, il faut faire un choix. Ensuite, sur les collectifs qui se forment, je rappellerai quand même qu'un collectif, quand il se met en grève, même s'il a des revendications propres, je prends l'exemple avec les contrôleurs sur la ligne, donc j'ai eu pas mal d'infos dernièrement. S'ils sont mis en grève, c'est parce qu'il y a eu un apport organisationnel via les organisations syndicales. C'est-à-dire, vous pouvez pas, le collectif, s'il n'est pas lié à un syndicat, il ne peut pas poser un préavis de grève, il ne peut pas, il faut sortir des tracts, etc. Et ça, c'est un apport matériel, alors idéologique, dans une certaine mesure, je dirais, à partir du moment où il y a contradiction, il y a forcément un apport idéologique, mais il y a un apport organisationnel qui est nécessaire.
Mohamed, vous voulez dire quelque chose avant de vous libérer, parce que je dois lancer la pub, allez-y.
Il n'y a pas de souci. Je reviens sur ce que mon collègue a dit. Et je suis totalement d'accord. On n'est pas autonome à 100%. Mais en fait, c'est que les syndicats ne reflètent pas l'image vraiment du ras-le-bol qu'on ressent. Et je rebondis sur un point qu'un de vous a dit tout à l'heure. C'est que la classe moyenne, c'est-à-dire nous, on est en train de disparaître. Des fois, je m'amène à penser carrément à être revenu au RSA. Je souffrirais moins.
Oui.
Et j'ai l'impression de pas.
Attendez.
J'y arrive plus.
C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes prêt à rester en ligne avec nous, Mohamed?
Il n'y a pas de souci.
Restez avec nous. Je lance la pub urgemment parce que depuis tout à l'heure, le réalisateur Anthony me dit qu'il faut la lancer. On la lance et on se retrouve tout après. Emmanuel Dupuis qui souhaite vous répondre.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, vous êtes les bienvenus, c'est parti. Les informés, vous savez, c'est avec Bruno Pomar, les informés avec Emmanuel Dupuis, et enfin, les informés avec notre représentant CGT, notre Jimmy Dalidou. Mohamed, je vous récupère du 75. Il y a Emmanuel Dupuis qui souhaite échanger avec vous et vous répondre, oui, ensuite, Jimmy Dalidou.
Je me reconnais dans ce que Mohamed dit sur un déclassement d'une partie importante de la population française.
On est là, vous êtes en direct, hein, Mohamed. Hein.
Des populations européennes. Donc, ça, c'est éminemment. L'impact négatif des 30 Glorieuses.
Donc vous êtes d'accord avec Mohamed ?
Non, mais de toute façon, je suis d'accord avec Mohamed.
Sauf que lui, il dit, parfois, il pense même au RSA. Il passe de la classe moyenne au RSA.
Ce sur quoi je ne suis pas forcément d'accord par rapport à ce débat.
Alors.
C'est qu'on a commencé à débattre de la réforme nécessaire des retraites. Or, il me semble que les motivations donc légitimes d'un certain nombre de représentations syndicales ou d'un représentation de travailleurs ne sont pas du tout sur les retraites. Ils sont sur leurs conditions de vie, oui, aujourd'hui, sur leur pouvoir d'achat, sur la manière dont le gouvernement les traite. Donc l'amalgame me semble un peu spécieux. Mmh. Soit on manifeste parce qu'on n'est pas d'accord avec la réforme des retraites, et on le dit. Or, en écoutant Mohamed, il n'a pas du tout parlé de ça.
Ouais. Ben Mohamed, on vous écoute, Mohamed.
Oui, exactement. Moi, personnellement, la retraite, exactement, c'est pas... Ça en fait partie, mais c'est pas la chose la plus importante. Moi, c'est vraiment qu'on a de plus en plus mal
à ce sujet.
Non, mais Emmanuel a raison. Je pense qu'il y a un amalgame qui est fait. Tu as tout à fait raison.
Bruno Pomar.
Mais moi, ce qui m'étonne encore, mes amis, par rapport à l'âge de départ à la retraite, puisque personne ne veut 64 ans. Je regarde. J'ai un petit topo que je me suis fait.
Allons-y. C'est quoi le topo européen?
Mais c'est impressionnant, les amis. Juste quelques mots.
Allons-y.
Danemark, 67 ans. Allemagne, 65 ans. Pays-Bas, 66. Irlande, 66 ans. 65 pour le Luxembourg, l'Autriche 65. Emmanuel.
Alors, il y a une réponse un peu logique.
Emmanuel,
c'est que
Dupuis.
La plupart des pays européens, par rapport à leur système éducatif, par rapport à leur système universitaire, font que les gens arrivent, leur système de formation, font que les gens arrivent sur le marché du travail plus tard que les Français.
Donc, tous.
Beaucoup.
Presque,
beaucoup. Pas tous.
Oui, bien sûr. Non.
Après, il faudrait regarder. Je pense que dans les pays du Nord, l'âge de départ à la retraite est plus éloigné, car il y a un service public qui est peut-être moins dense que dans les pays de tradition latine.
Donc, ils travaillent plus tard.
Et donc, du coup, qui travaillent plus tard.
Grèce, 67 ans, tu te rends compte ?
Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le système de répartition à la retraite français n'est pas partagé par tous les Européens. Et donc, le fait de partir à la retraite est aussi induit par le fait que certains cotisent dans des mutuelles. Et donc un système complémentaire de retraite. Chose que nous n'avons pas en France, parce que nous n'avons pas une libéralisation totale de la manière dont on pense à le rapport au travail. Donc encore une fois, c'est culturel. Par exemple, en Grande-Bretagne, les petites retraites sont encore plus basses que le minimum retraite en France. Mais encore une fois, c'est lié au système.
Ouais, deux choses.
Jimmy Dalidou voudrait parler, échanger avec Mohamed.
Tout à fait. Deux choses par rapport à ce que tu disais, Mohamed. La première chose, c'est qu'effectivement... Encore une fois, il faut faire son autocritique. Tout le monde devrait faire son autocritique et les syndicalistes, les premiers. Faut pas oublier une chose. Tracer une ligne de démarcation entre la base militante et travailleuse et la direction syndicale. Ça, c'est très important. Et ça, on peut pas le faire parce que quand vous analysez, quand vous observez les possibilités d'organisation des différents syndicats, notamment de la CGT, on peut pas nier qu'à partir du moment où la CGT pose un préavis et que vous avez une bonne partie des travailleurs de ce pays qui arrêtent de travailler, on peut pas nier cette faculté organisationnelle. Donc ça pose la question de la démarcation entre la base militante et travailleuse et la direction syndicale. Et les gars comme moi qui suis, j'ai toujours dit, chez Beurre FM, je m'en suis jamais caché. Moi, je suis syndicaliste révolutionnaire. C'est-à-dire
le dissident.
Le syndicalisme, il doit être intégré dans... Elle est totalement liée à la lutte des classes. Maintenant, ça pose la question très simple. Je l'ai dit tout à l'heure. de la passivité générale ambiante qui règne. Si les travailleurs veulent un autre syndicalisme, mais qui se réapproprie l'outil syndical, il n'est pas là. S'il existe, bah, j'appelle les travailleurs à s'organiser, à se syndiquer, à faire des AG, à prendre des décisions, mais qui se réapproprient leur outil syndical. Encore une fois, c'est pas en restant
donc le système syndical,
dans la passivité. J'ai pas terminé.
Jimmy, c'est pas en restant dans la passivité. On peut changer. Jimmy.
Alors, je comprends bien. C'était un peu dissident des syndicats classiques.
Mais je suis pas le seul. Hein.
Ce qui veut dire, c'est qu'on est au bout du syndicalisme. Ça veut dire que
je vais libérer Mohamed. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Merci d'être intervenu. 0153. Merci. On continue comme ça et on lâche rien. 0153483000. Ces d'autres syndicalistes souhaitent intervenir justement et nous faire part de leurs commentaires. Justement. Ou le reste. Non, attendez. Non, mais je profite. Vous avez raison. Ou les Français, ou les auditeurs non syndiqués, s'ils veulent venir, évidemment, dire le contraire. Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette révolte ou pas?
Ce qui veut dire que les grandes centrales syndicales sont hors sujet. C'est ce que tu veux dire.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à partir du moment où il y a une possibilité organisationnelle et qu'il y a une colère chez tous les travailleurs, effectivement, on doit tracer une ligne de démarcation entre la base militante travailleuse et la direction. Mais effectivement, en tant que syndicaliste révolutionnaire, je crois que les travailleurs doivent se réapproprier le outil syndical. C'est pas la passivité qui va faire
qu'on
va y
arriver. Ça veut dire que les syndicats sont au boulot.
Et effectivement, on doit faire notre critique. Je finirai sur un élément qui est le déclassement. Faut pas tout confondre. Le déclassement, ça, on en avait parlé à l'époque. Le
processus de... Vous en avez parlé plusieurs fois.
Oui, déclassement, il est lié au processus d'accumulation et de concentration.
Vous entendez ça, Emmanuel Dupuis?
Ça fait partie des rouages de fonctionnement de l'économie et de l'orientation économique. D'ailleurs, c'est pas lié à l'orientation des syndicats, ça n'a rien à voir. Le processus de déclassement, il est lié à l'orientation économique qui est actuellement mise en application. Et le fait que cette économie est obsolète, elle ne tient plus la route, qu'il faut passer à autre chose. Et je suis persuadé que la collectivisation des moyens de production s'annoncera comme une nécessité immédiate.
Emmanuel Dupuis, ensuite, je vais accueillir Christine du 91.
Le communisme est de retour.
Je ne réponds pas, j'amène juste un élément à la sagacité de notre départ. Et je pense qu'il est utile pour les auditeurs de l'avoir à l'esprit. Une bonne partie des motivations de la grève de demain vient du fait que le gouvernement ait ajouté dans la réforme la fin du régime spécial des retraites pour RATP. Oui. C'est pour ça que c'est la RATP qui
bien
fait
sûr.
Grève
mais bien sûr.
Et pas les autres.
Pour leur gueule.
Enfin, RATP, Christine. Et EDF et Banque de France.
Christine, bonsoir. Oui. Je vais accueillir Christine, bonsoir. Vous nous appelez du 91, mais quelle ville du 91?
Faut le dire. Bonsoir, de Villiers-sur-Orge.
Villiers-sur-Orge, on vous écoute, Christine. Tous les débatteurs influenceurs vous écoutent.
Merci. Mais écoutez, je voudrais simplement dire que je suis évidemment contre cette réforme. Je trouve qu'elle est parfaitement injuste. Que c'est entre guillemets la goutte d'eau là qui fait déborder le vase, parce que les Français, je parle au nom en effet des Français, les Français en ont ras-le-bol, mais on en a ras-le-bol de ce gouvernement et de tout ce qu'ils font. Là, je trouve que c'est trop. Après ce qu'on a vécu, le Covid, là maintenant il y a eu les problèmes pour l'électricité, où ils ont fait peur aux gens. Ça commence à bien faire et on en a marre. Et moi, je vous le dis, je suis carrière longue, ça fait 40 ans que je travaille.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites, madame?
Bruno Pomard, vous dit qu'est-ce que vous faites? Bruno Pomard, il veut échanger avec vous. Bruno Pomard.
Je suis cadre dans une grosse entreprise. Voilà.
Dans
et
le privé,
honnêtement, là maintenant,
ça fait plus de 40 ans qu'elle bosse.
Oui. Voilà. Ça fait 40 ans que je travaille, vous voyez, j'ai bien l'intention de toute façon de partir à 60 ans. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, vous voyez, j'ai une collègue ce matin qui était en pleurs, mais en pleurs parce que avec la loi Touraine, elle attendait parce qu'elle voulait pas avoir les 10% de pénalité, donc elle a dit tant pis, je vais faire un an de plus pour ne pas avoir cette pénalité pendant 3 ans. Elle est toute seule, elle vit à Paris.
Messieurs, on parle pas de retraite, on parle de conditions de travail.
On parle... Exactement. On sent que la révolte s'installe dans les esprits quand on entend.
Non, on n'en peut plus.
On fait un tour de table. Alors, oui, Christine.
Vous savez, je pense que les gens jusqu'à présent, les gens sont devenus tristes. Les gens ferment leur bouche. Mais je pense que là, ça va être le moment où on va ouvrir notre bouche.
Christine, attendez. Comme vous êtes en colère, je fais un tour de table. Bruno Pomard, Emmanuel Dupuis, Jimmy Dalidou.
Moi, ça me ramène à ce que vous dites, madame. Ça me ramène à ce que disait Emmanuel à l'instant. C'est qu'il y a une espèce d'amalgame entre les conditions de travail, la société qui est peut-être plus compliquée, plus anxiogène, parce que les médias nous aident bien à ça aussi, hein, à être de plus en plus tristes et de plus en plus en colère. Et puis, et les retraites. Il y a deux choses totalement différentes, je pense, madame, puisque vous êtes toujours en activité. Vous dites.
Christine.
Et vous en avez marre. Donc, c'est les conditions de travail qui ne vous conviennent plus et vous avez envie d'arrêter. Mais ça n'a rien à voir directement avec la retraite. Excusez-moi de vous le dire.
Non, mais attendez, en même temps, les gens.
Elle a raison.
Travailler les gens jusqu'à quel âge aussi, en fin de compte.
Exactement, Christine.
Vous faites un travail très.
vous faites un travail pénible, Christine, excusez-moi.
Christine est une exploitée. Non, je ne fais pas un travail pénible, je suis derrière un bureau. Donc, vous voyez, non, absolument
non.
pas.
Non, c'est là, juste une question.
Oui.
Non, mais on sent le ras-le-bol. On vous sent révolté. Emmanuel Dupuy, je veux qu'on régisse ça. Non, mais attendez, je veux qu'on parle de cette révolte qui s'installe.
Je suis d'accord avec Bruno, j'ai du mal à voir l'amalgame qui est fait.
Avec Bruno ou avec Christine?
C'est lié, elle est en train de vous dire qu'elle est. Est-ce qu'on manifeste contre les propositions d'une réforme mieux?
Il a raison, Emmanuel Dupuy. Il a raison, vous entendez ce qu'il dit, vous dit. Est-ce que vous entendez Christine qui vous dit, Emmanuel Dupuy?
La question à poser, c'est.
Ah, mais j'entends très bien.
La question, c'est êtes-vous pour une réforme de la retraite?
C'est ça.
Êtes-vous pour une réforme de la retraite?
Elle a dit non. Pour parler, pour le retraite.
Alors si comme dit Jimmy semble le dire, vous êtes contre une réforme de la retraite, il faudra m'expliquer comment on va pouvoir payer les retraites tout court.
T'as raison.
Tout exact. Court.
Bah, tu l'as dit pourquoi elle exploitait. Christine est exploitée depuis 40 ans.
Comment on les paye?
Est-ce que c'est normal
qu'on Jimmy Dalidou.
Ça fait 40 ans que Christine. Tu me diras si je me trompe, hein, Christine. Ça fait 40 ans que tu travailles, que tu payes tes factures, et on est en train de te dire que tu vas trimer encore plus pour des mecs qui en une minute touchent le triple de ce que tu touches.
Mais vous entendez la comparaison avec les.
Attendez, Christine, qu'est-ce que vous répondez, Christine, à Jimmy? Qu'est-ce que vous répondez à Jimmy?
Moi, je suis tout à fait d'accord de payer mes factures. J'ai toujours payé mes factures, j'ai des valeurs, j'ai toujours, moi, au sein de ma famille, j'ai toujours vu les gens travailler, etc. Mais au bout d'un moment, là, l'écart, il se creuse. Et franchement, il n'y a plus rien qui va. De toute façon, la France, ça part en cacahuète.
Il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités. Comment on fait?
On est d'accord sur le principe? C'est le fait d'amalgamer tout ça.
Bien sûr.
Par rapport à un projet de réforme d'un secteur d'activité, au combien qui dépasse très largement les luttes sociales, puisque là c'est une lutte sociétale. C'est ça que je veux essayer de dire et redire. Voilà, on n'est pas d'accord sur les propositions des réformes de la retraite, mais il faut bien que ce débat s'engage.
Et sur les 10 prochaines années, quand même, on va avoir de plus en plus, de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Et moi,
vous savez très bien qu'on ne peut pas tracer une ligne de démarcation entre la retraite.
Vous dites quoi?
C'est ce que tu es en train de faire. On ne peut pas faire la différence entre la retraite et prise en considération, enfin, valider un nouveau système de retraite sans prendre en considération les conditions de travail. Moi, ce qui me pose problème, c'est que vous compartimentez les deux éléments qui sont totalement liés. On ne peut pas.
Vous adressez à Emmanuel là.
Non, mais
deux.
On ne peut pas.
Vous êtes en train de le faire.
Mettre en application une nouvelle retraite. D'abord, on est contre. Et soit prendre en considération les conditions de travail qui n'ont jamais été améliorées depuis ces dernières décennies.
Vous êtes vous-même en train de le faire entre ceux qui théoriquement auraient des conditions plus dures et donc qui devraient manifester davantage, alors que ça concerne tous les Français, quel que soit leur salaire, puisqu'il y aura une baisse de leur retraite de toute l'assiette et non pas seulement des travailleurs. C'est là où je ne vous suis pas.
On a clairement dit que dans la retraite, déjà on est contre la retraite parce que augmenter l'âge de départ, ce n'est pas normal, parce que lorsqu'on a travaillé 40 piges, c'est normal qu'on puisse se reposer. Je vous rappellerai qu'il y a
tous les métiers, donc.
Tous les métiers. Pas seulement les services publics, tous les métiers.
Heureusement, les services publics, mais c'est pas les plus.
Effectivement, on a posé des revendications qui émanent de certains secteurs publics parce que vous savez très bien que certaines multinationales attendent à la porte et que la libéralisation, la privatisation des services publics va augmenter le fric, tout simplement.
Et ça va arriver.
L'augmentation du taux de
c'est
profit.
Là où vous êtes en contradiction.
On n'est pas en contradiction. On a posé des revendications universalisables.
Si vous ne voulez pas. Universalisables. Et quand vous ne voulez pas sauver le système de retraite par répartition, vous aurez ceux qui peuvent se payer cette retraite à travers des mutuelles et ceux qui ne peuvent pas.
Bien sûr, mais ça c'est la base du capital, c'est la base de la retraite qu'ils sont en train de valider.
Christine,
c'est pour ça qu'on a dit que toutes les spécificités, selon toutes les caractéristiques des différents métiers,
le débat continue. Je veux juste libérer Christine. Vous allez manifester le 19 prochain?
Ah et comment? Ah oui, je peux vous dire que oui, je vais être sur le terrain et je vais. Il n'y a pas que le 19, hein, je vais manifester. Hein.
Bon.
Là, je suis vraiment décidée. Voyez, honnêtement, moi dans 3 ans j'aurai 60 ans, j'aurai 43 ans de cotisation, voilà, hein. Mais moi, je pense aussi à ma fille, vous voyez, par exemple.
Donc finalement, Emmanuel Dupuis a raison tout à l'heure quand il dit ce n'est pas justement cette réforme des retraites, cette mobilisation, ce n'est pas que les syndicats, mais c'est les Français qui veulent bloquer la France.
Bien sûr.
Ah, absolument.
Donc c'est notre expert façon, finalement qui sera pas de la réalité.
Des retraites.
Je suis pas un expert en retraite.
Juste un truc.
Merci. Attendez, je libère Christine. Merci, Christine.
Quand on parlait de prendre en otage les Français, les premiers qui prennent en otage les Français, ce sont les membres du gouvernement qui nous prennent en otage.
Ah, là, je suis d'accord.
Ouais.
Là, je suis d'accord. Ils se sont en première ligne. Donc, on ne va pas se laisser faire. On se battra. On a eu, vous savez, nos anciens, ils ont fait des grèves qui ont duré et duré. Au jour d'aujourd'hui, si on a des congés payés, c'est grâce à nos anciens. Ouais, et, ah oui, ils n'ont pas eu peur. Bah, nous, on n'aura pas peur. Bon. Et on va y aller.
Merci, Christine, et bonne manif pour
merci
le 19.
Pour votre écoute.
Merci à vous surtout et de votre fidélité. Jimmy Dalidou, 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler évidemment face à cette révolte qui s'installe.
Ouais, moi, ce qui me gêne, surtout dans certains médias qui présentent, qui ont créé un clivage, pour pas dire contradiction, entre les organisations syndicales et les travailleurs, je voudrais revenir sur un élément clé qui est que l'organisation syndicale, elle n'est pas là pour contrôler les travailleurs. D'accord? Elle est là pour s'adapter aux revendications qui émanent de la base travailleuse et militante. Faut pas tout confondre. On n'est pas là pour les contrôler, les travailleurs. On est là pour s'adapter à ce qu'ils veulent, à leurs besoins. Maintenant, s'il y a un collectif de travailleurs qui se crée, qui pose des revendications, et qui pose des revendications justes, et qui sont logiques, cohérentes, eh bien, on se doit, et c'est ce qu'on a fait, indépendamment de ce que présentent les médias qui veulent absolument créer un clivage entre les deux, ce qui est totalement faux. À la SNCF,
mais si, il existe, mais il existe, Jimmy. Il y a combien, il y a combien de gens syndiqués en France?
On a des collectifs qui se créent. Et nous, on accompagne les revendications qui émanent de la base militante et travailleuse.
Moi, j'ai un sujet.
On n'est pas là.
Bruno Pomard, attendez, s'il vous plaît.
Il y a 30 millions de gens qui travaillent en France. Il y a combien de millions de gens syndiqués? Peut-être 2 millions.
2 millions 6? C'est ça, non?
Exactement.
Et c'était avant.
Et tu comptes pas la
sortie de la guerre.
Et tu t'intègres pas la neutralité bienveillante, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas syndiqués mais qui sympathisent à la.
Non, mais
tu
me parles des syndicats en disant qu'ils sont en adéquation avec les travailleurs. Ils sont en adéquation avec rien du tout, les syndicats, ils sont à la rue.
Parce que dans les AG, t'as pas des syndiqués. T'as aussi les travailleurs, t'as des non-syndiqués.
Vous êtes à la rue, tu le sais, Jimmy.
Non, j'ai pas dit qu'on était à la rue. Si, j'ai dit qu'il y avait une contradiction entre la barre et la direction.
Bruno Pomard, en 2019, 10,3% des salariés déclarent adhérer à un syndicat. 11% des hommes et 9,5% des femmes en France. Hein.
Non, mais c'est ridicule.
C'est ridicule, mais c'est...
C'est terrible.
C'est terrible pour les travailleurs. Bon, allez, messieurs, je voudrais qu'on poursuive parce que je voudrais qu'on parle d'Edouard Philippe. Justement, vous savez, lui, il avertit toute la Macronie autour, mais il dit surtout, allez, attention, hein, il est favorable justement pour cette réforme des retraites, mais l'ancien Premier ministre, il dit, il y a des sujets quand même qui sont un peu plus urgents que la réforme des retraites, il pense notamment à la migration, il pense notamment à la dépense publique, mais il dit surtout à Elisabeth Borne, peut-être que là, on devrait lâcher un peu plus la réforme des retraites et se préoccuper des sujets qui sont d'actualité. Est-ce qu'il cultive pas encore une fois sa différence? Qu'est-ce qu'il y a là de sous-jacent, Emmanuel Dupuis?
Ah bah, il y a clairement une mise en branle d'une stratégie présidentielle. Mmh. Il veut clairement dire que le gouvernement est focalisé, hypertrophié autour d'une réforme certes importante, mais comme je l'ai dit précédemment et comme nous l'avons tous répété, aurait pu prendre un peu plus de temps pour être mature. Et je crois qu'encore une fois, Édouard Philippe, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur plein de sujets, a raison sur la méthodologie. Il y a un certain nombre de sujets qui sont mis de côté parce qu'ils sont encore plus clivants ou tout aussi clivants que la réforme des retraites. Et donc, de ce point de vue,
mais
il a raison
vous,
de
vous,
tacler...
La réforme de retraite a de se faire pour vous, Emmanuel Dupuis.
Sur le principe, oui. Mais ce n'est pas celle qui est proposée. Je ne suis pas d'accord avec celle
donc
qui est
proposée. Donc, il faut
débattre. Bah, il faut prendre le temps et c'est ce qu'Edouard Philippe dit. Édouard Philippe dit que...
Donc, c'est ce que vous dites finalement, vous aussi.
Que la
réforme des retraites, oui, mais il faut discuter.
Alors, c'est même un truisme. Réforme des retraites, ça veut dire qu'il faut du réformisme et non pas une logique de rupture. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'inscrive dans une acceptation et il faut prendre le temps qu'il faut pour que chacun y trouve son compte en termes de pénibilité, en termes d'entrée dans le marché du travail.
Donc le débat doit s'installer à l'Assemblée nationale.
Mais le problème, c'est qu'il ne va pas s'assembler puisque le gouvernement veut passer en force, comme il l'a fait sur tous les textes depuis le début de cette mandature.
Vous parlez du 49-3.
Il ne pourra pas utiliser le 49.3 non plus sur le système de retraite.
Hein. Moi, je ne voudrais pas faire pro-gouvernement, mais
quand on voit la difficulté de gouverner ce pays qui est ingouvernable, je dis.
Alors parce que la CGT le monde... appelle à 6 jours de grève. Hein.
Oui, voilà,
c'est l'annonce qui vient de tomber.
Et tu le disais tout à l'heure par rapport à la RATP qui défend sa cantine. La RATP, ils s'en foutent du plombier ou du carreleur. Hein. Ils défendent de leur gueule, hein, la RATP. Chacun
du
veut
défendre le service public.
Oui, c'est ça. Mais moi je pense
qui a été broyé sous le
rouleau
professeur des services publics.
Moi, j'étais
attends,
Jimmy.
Qui spécule
Jimmy, t'es fonctionnaire comme je l'étais.
C'est pour ça que
t'es fonctionnaire comme je l'étais. Moi, je ferme ma gueule.
Liberté, égalité.
Oui, oui. Moi, je pense à mes carreleurs, à mes plombiers chez moi, dans le rural. Et mes agriculteurs.
Arrêtez les fonctionnaires. Universalité, égalité. Les trois piliers du service public.
C'est du pipeau ce que tu racontes.
Et si. Parce qu'à l'époque, quand t'allais à l'hôpital. On t'accueillait.
Rien du tout.
Je te dis simplement. Et t'en as même qui crèvent la dame sur les
services
dans les lits d'hôpitaux. Si c'est ta vision du service public.
Il y en a marre
public,
que les services bravo. Publics donc, que tu
fais. Eh ben ça dénote bien qu'il y a là, vous savez quoi, un véritable bras de fer qui est en train de s'installer, chers amis. Non mais c'est vrai.
Vive le service public, oui. Selon Bruno Pommard.
Oui.
On meurt de faim dans les
ouais,
dans les
mais viens dans le rural, tu sais pas ce que c'est.
Vive
ce que
le
c'est.
Service public.
Les agriculteurs qui crèvent la dalle, tu t'en fous toi.
Bah c'est pareil, moi, je me bats pour les agriculteurs.
Si tu
parles
rien, tu t'es payé.
Je me bats pour peu travailleurs qui soient
publics ou privés.
Eh ben 0153-48-3000, je sollicite nos auditeurs justement. À tout de suite, on lance la pub, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
La révolution.
Ronaldo.
Ah là là, on parle football là justement, 19h23. Les informés des dernières lignes droites avec Bruno Pommard, avec Emmanuel Dupuis et enfin avec Jimmy Dany.
Les informés. Le face-à-face.
Vous savez, je voudrais qu'on parle, vous savez quoi, de un qui a fait une déclaration. J'ai fait le con. Ça, c'est une déclaration de Noël Le Graët en larmes lors du COMEX. Je trouve ça pitoyable. Bon, ça, c'est mon avis. Alors, l'affaire Le Graët-Zidane, j'ai fait le con. Qu'est-ce qu'on dit autour de cette affaire, justement, Bruno Pommard?
Bah, c'est pathétique, hein. Monsieur Le Graët, je respect pour son âge, évidemment, mais bon, à un moment donné, il faut savoir passer la main et puis s'abstenir. C'est sûr qu'il a dérapé totalement. Il fallait pas dire que ce soit Zidane ou un autre, d'ailleurs. Quand on est président d'une fédération, comme la Fédération Française de Foot, on fait pas ce type de déclaration, voilà. Et je trouve que c'est méprisable, mais bon, il est en train de le payer, puisqu'ils l'ont mis à l'écart, ils ont mis le vice-président exécutif sur la selle, comme on dit. Donc voilà, mais oui, c'est dommage. C'est dommage, et puis, en même temps, ça donne cette espèce de nébuleuse qui a dans ces grandes fédérations ultra-friquées où il y a beaucoup de fric et tout. Il y a beaucoup de choses qui me gênent. Puisqu'on vient de parler en plus des retraites et des petits salaires, quelque part, quand on fait le parallèle avec tout ce qu'on a vu avec la Coupe du Monde, avec toutes ces stars du football qui sont payées plus qu'il ne faut, ouais, je trouve que ça me gêne, moi. Franchement, ça me gêne.
Ça vous gêne. Alors, justement, faisons un tour de table. Qu'est-ce que vous dites, vous, Emmanuel Dupuis?
Alors moi, je suis évidemment aussi scandalisé et profondément inquiet parce que ce qui se passe dans le football est en train de gagner le rugby. Je rappelle que
c'est
nous
vrai.
Avons désormais deux présidents de fédération qui ont été débarqués ou qui sont en passe d'être débarqués puisque Bernard Laporte est lui-même aussi...
Et Claude Acher, le patron
qui fait l'objet, le président de la Fédération française de rugby, qui fait l'objet d'une critique très sévère par rapport à sa mise en examen. Donc c'est particulièrement inquiétant puisque l'année prochaine, il y aura le mondial du rugby. C'est particulièrement inquiétant parce que 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Et c'est particulièrement inquiétant parce que la France a une responsabilité de modèle dans le football, oui. Eu égard à son statut de finaliste lors de cette dernière Coupe du Monde. Et j'espère une troisième étoile en 2026. Donc je crois que la situation du sport en France montre à quel point il y a eu des dérives claniques. L'argent désormais règne en maître dans toutes les fédérations sportives. C'est pas que le foot.
Oui. Hein,
regardez ce qui se passe dans le tennis et vous aurez évidemment aussi un comparatif à peu près équivalent. Par contre, dans le football, ça atteint des sommes absolument considérables.
Ouais, ça, si on prend juste Ronaldo.
Si on prend juste le salaire de Ronaldo,
précisez-le.
Je le redis quand même.
Dites-le.
75 millions d'euros par an, ça fait 6,2 millions.
200 millions par an.
Pardon,
200 millions par an.
Pardon, 200 millions.
Merci Bruno Pommard.
Oui, parce que c'est vrai que.
C'est moi ou son banquier.
C'est vrai que ces chiffres.
C'est lui son banquier.
C'est-à-dire 6,2 millions par mois.
C'est énorme. Hein,
combien
6,2 millions par mois.
Ça fait tourner la tête, ça.
Ça fait combien? Ça fait 1,4 million par semaine. Ça fait
combien par semaine?
1,4 million de dollars.
Oh là,
et à l'heure? Et par jour, ça fait 250 000 euros par jour.
Oh là là.
Ça fait 8 500 euros par heure, 142 euros par minute et 3 euros par seconde. Donc là, on a atteint le degré le plus absolu de l'irresponsabilité.
De dépravation.
De la professionnalisation d'un certain nombre de sports. La beauté du sport est très loin.
Oui, il n'y a pas que de l'amateurisme là. Non, mais et alors, non, Emmanuel,
très,
à sa décharge.
Très loin de la beauté de l'amateurisme.
À sa décharge. Emmanuel, c'est que Cristiano Ronaldo ne fait pas ça, ne le dit pas, mais il fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors on va me dire, c'est normal, il gagne plein de pognon.
Pour les associations,
Jimmy va me dire ça.
Ça,
c'est énormément.
Et dans le monde.
Même
dans le monde.
Mbappé, d'ailleurs, il dit rien, mais il fait beaucoup de choses.
J'espère bien. Non, c'est pas le problème. Après, c'est ça, c'est une conscience personnelle.
J'ai mis des lédoux, là, pas de choses.
30 secondes. C'est juste le concept. Le concept qui me fatigue. Évidemment, en quelques phrases, critique absolue de la décision et de la déclaration absolument innommable au sens propre du terme de Noël Le Graët. Mais en même temps, rappelons que la Fédération française de football est un panier de crabes. Ouais, et qu'en gros, c'est des luttes d'égo entre les uns et les autres. Et puis, dernier point, Noël Le Graët a été sanctionné non seulement par rapport à ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane, mais parce qu'il était accusé possiblement d'une mauvaise gestion de la Fédération française de football. Il y a un audit de la Cour des comptes qui va être rendu public. Et surtout, parce qu'il était accusé, avec des caractérisations assez précises, d'harcèlement.
Jimmy Dalidou.
Deux choses. Alors, sur les propos de M. Le Graët, c'est évidemment totalement... C'est inadmissible, immonde et inqualifiable. Et c'est bien qu'il parte, parce que je crois qu'il fallait qu'il parte. Et deuxième chose, effectivement, je reviendrai sur... En fait, ces propos reflètent cet état d'esprit qui est un état d'esprit de dégénéré, en fait, pour un chat, dans lequel vous avez du fric. Quand on touche 3 euros à la seconde et que c'est ce que le smicard touche à l'heure, et lorsque vous touchez 1300 euros et que vous avez même pas de quoi payer, une fois que vous avez payé votre loyer, vous avez même pas de quoi bouffer, et que les mecs ils touchent 200 000 euros au moins, je crois, c'est comment vous voulez demander à des gens de rester sages alors qu'on va leur dire qu'ils vont travailler toute leur vie? Franchement.
Oui, c'est indécent, mais en même temps, ça génère tellement d'argent.
Comment vous voulez qu'ils restent sages? Et ça pousse, vous savez, c'est quoi? Les psychanalystes, ils pourraient vous le dire. Ça pousse au développement du ça. Ça pousse à l'extériorisation du ça. Ça pousse les gens dans la rue. Ça pousse à la déchéance, à la révolte sociale. Ça pousse à l'insurrection. Et je crois que l'insurrection est une clé. Et c'est une réalité qui va arriver.
Mais pourquoi?
On ne peut pas accepter qu'il y ait des dérives de dégénérés à ce point-là, dans lesquelles vous avez des gars qui touchent, même s'ils sont sportifs. Je suis moi-même sportif et je suis un admirateur des grands sportifs, évidemment. Je suis moi-même sportif. Mais personne n'a besoin de toucher 200 000 euros à la journée. Arrêtons
Soyons
un peu rationnels.
Je voudrais juste une phrase,
soyons
s'il vous plaît.
Un peu rationnels.
Tu parles d'insurrection, tu dis les insurrections, elles ont amené à rien sinon qu'à des dictatures. Hein,
à même temps, l'Amérique d'abord, du Sud. On parle d'abord subjectivement parlant.
Je voudrais juste entendre Emmanuel Dupuis d'une phrase, hein, s'il vous plaît, d'une phrase, Emmanuel Dupuis. Oui. Hein. Quand la France ne devrait pas exister, ça, c'est la télévision russe qui parle des frappes préventives et qui critique Macron.
C'est RT France, hein, qui a dit ça.
C'est la télévision en russe. Ben alors, c'est quoi ça? On peut dire ce qu'on veut en roue libre comme ça?
Alors, je vais vous le dire en 30 secondes. La personne qui a dit ça à deux villas de luxe en Toscane. Ça résume mon propos. C'est aussi simple que ça. C'est ridicule.
Mais pourquoi lâcher ces phrases?
C'est ubuesque.
Bah oui, c'est ubuesque.
Mais qui prend au sérieux les gens qui interviennent sur OCA, notamment Solovyov, qui a dit ces aberrations?
Vous avez tout dit d'une phrase. Merci messieurs, merci à Jimmy Dalidou.
Merci à vous.
Justement, on l'aura compris, représentant CGT mais également auteur. Bruno Pomard.
Merci cher ami.
Vous savez quoi? Il est chroniqueur télé, mais il est également surtout le père fondateur de la fondation Raid Aventure, ancien membre du Raid.
Ah, ça se voit en plus.
Bah oui, il a la casquette.
C'est pour faire
vissée sur la tête, c'est marqué Raid. Raid Aventure. L'expert international de l'IPSE, le président de l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Au plaisir.
Toujours un plaisir. Toujours un plaisir.
À la réalisation, c'était Anthony. Merci à Anthony à la réalisation. Et aux nombreux auditeurs, je tiens à les remercier. Parce que vous savez quoi, ils sont de plus en plus nombreux.
Faites passer le mot, soyez encore plus nombreux.
Voilà, il a raison Emmanuel Dupuis. Mylène Nenman, 20h-21h. Ensuite, c'est Vanessa pour Confidence, à partir de 21h jusqu'à 23h. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, c'est quoi? On
ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Rien.
Et
à
moi,
demain.
Je donne rendez-vous à Jimmy parce qu'on va continuer le débat.
C'est
demain.
Ça.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.